Vous savez que la capitale de l'Aveyron dispose d'un très riche patrimoine. Le découvrir permet de mieux connaître l'histoire de Rodez et de comprendre la place de l'Église dans ce territoire. Nous accueillons ce matin le père Luc Meyer, évêque nommé du diocèse de Rodez. Bonjour père.
Bonjour Isabelle.
Et bienvenue aussi à Marion Clochard, animatrice de l'architecture et du patrimoine pour Rodez Agglomération. Bonjour.
Bonjour.
La guerre de 100 ans, on va remonter loin, hein, a fortement influencé le mode de construction des édifices aveyronnais. Mentionnons notamment les églises fortifiées qui ont été édifiées dans le département. Marion Clochard, pouvez-vous nous décrire ces lieux de culte catholique ?
Alors la particularité effectivement de certaines de nos églises, c'est de disposer de chambres-refuges dans les étages des églises. Les églises pour les communautés en fait rurales étaient presque le seul lieu de vie communautaire, et les paroissiens en fait avaient demandé aux évêques de pouvoir aménager des espaces de refuge pour eux et leurs récoltes, puisque la guerre de 100 ans, c'est une guerre évidemment très longue, c'est une guerre d'usure, ça n'est pas une guerre de position, donc on avait des bandes armées qui sillonnaient les campagnes et qui
pillaient.
Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a des exemples d'églises refuges et également d'églises fortifiées, notamment à Ignières et Sainte-Radegonde. Et celle d'Ignières est particulièrement impressionnante, puisque lorsqu'on la voit, on pourrait complètement oublier sa vocation religieuse, puisque on a des mâchicoulis, des petites tourelles d'angle, un chemin de ronde.
Donc on a plutôt l'impression d'être face à un château fort.
Tout à fait, tout à fait. Il faut rentrer dans les lieux pour percevoir la voûte, le chœur, et bien s'apercevoir qu'il s'agit bien d'une église. Mais dans le cas particulier d'Ignières et de Sainte-Radegonde, en fait, le seigneur du lieu était l'évêque. Donc en fait, c'était un peu son bâtiment dans les lieux. Lorsqu'on avait un seigneur, c'était le château qui servait de refuge pour la communauté.
Et là, c'est l'évêque qui accueillait chez lui, en fait.
Voilà, tout à fait.
Qui offrait le refuge.
Tout à fait. Mmh. Donc c'est vrai que ces églises-là sont très impressionnantes et racontent aussi une histoire particulière.
Monseigneur, vous arrivez de l'Ouest, alors évidemment vous avez un petit peu voyagé, vous arrivez de Laval plus exactement, vous nous aviez même dit que vous êtes plutôt de l'Orient. Vous étiez donc à Laval vicaire général du diocèse, l'Aveyron, vous avez pu un petit peu le remarquer puisque ça fait une petite semaine que vous êtes là, ne présente pas la même architecture que la Mayenne. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de pénétrer dans une de ces églises fortifiées aveyronnaises, et quelle impression cela vous a fait ?
Alors c'est vrai que je découvre complètement l'Aveyron, je découvre la beauté de l'Aveyron, et je suis vraiment touché par la force qui se dégage justement de ces constructions. Et en même temps, c'est une force, comme l'a bien dit Marion, qui est d'une certaine époque. Mais c'est bien de rentrer dans cette histoire, et je pense que pour comprendre l'histoire du peuple de Dieu en Aveyron, pour comprendre aussi l'Aveyron, j'ai besoin de quelques mois pour découvrir tout ce dont on me parle et qui m'impressionne beaucoup. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une belle joie hein, de venir ici et d'apprendre à découvrir cette histoire. En même temps, j'ai bien conscience que l'Église n'est pas une citadelle, ni une citadelle assiégée.
Ni imprenable.
Aujourd'hui, c'est une Église ouverte, et c'est une Église qui sort de ses frontières pour aller à la rencontre de l'autre. Mais c'est aussi sans doute pour qu'il y ait des lieux de rencontre. Mais le lieu de rencontre n'est pas dans la citadelle, il est plus sur la place publique. Il est plus ouvert à tous. C'est une question d'histoire.
Alors parlons maintenant de la cathédrale de Rodez. Elle n'est pas épargnée par ce style de construction massif. Sa façade ouest ressemble en effet à une forteresse. Vous m'indiquiez, Marion Clochard, en préparant cette émission, cet entretien, qu'elle n'a même pas de porte sur cette façade. Et pourtant, son style gothique lui apporte une certaine finesse. Donc on est un petit peu dans ces deux styles. Est-ce que vous pouvez nous promener un petit peu dans cet édifice qui a été construit entre le XIIIe et le XVIe siècle, Marion Clochard ?
C'est ça. Alors, en fait, on est sur un édifice gothique de gris rose. Je crois que l'élément important de cette cathédrale, c'est d'abord le matériau de construction. Un grès, rosi grâce à l'oxyde de fer, en fait, qui est présent à l'intérieur de cette pierre et qui va, suivant les failles de la carrière, être plus ou moins rouge, plus ou moins doré. Et c'est vrai que notre cathédrale est totalement différente en fonction de la météo.
Et de la lumière.
Et de la lumière, voilà, tout à fait. Donc, d'abord ce matériau. Effectivement, cette façade ouest, c'est quelque chose de très impressionnant, surtout lorsqu'on vient de l'avenue Victor Hugo. On voit ce grand mur très massif, très haut, donc lié à la guerre de Cent Ans, hein, puisque ce mur faisait partie de l'enceinte de ville. Donc évidemment, nous n'allions pas percer des portes de ce côté, mais on a de fines ouvertures qui ressemblent plutôt à des meurtrières. Pour autant... lorsqu'on s'élève un petit peu, on voit la belle rose ouvragée, le petit temple presque à l'antique qui vient la couronner. Et donc, voilà, on a cet élancement quand même de cet édifice. Et puis, lorsqu'on pénètre à l'intérieur, alors évidemment, on a quelque chose de particulier, puisque le chœur paroissial, en fait, n'est pas à l'est. Contrairement à ce qui se fait traditionnellement, donc voilà, on a quelque chose qui déroute un peu les visiteurs. Et puis à l'intérieur, on a par exemple, peut-être puis-je mettre l'accent sur les vitraux contemporains de Stéphane Belzer, puisqu'on est dans un édifice, voilà, de plusieurs siècles, mais qui continue à vivre et qui est dans son temps avec ses vitraux, donc réalisés dans les années 2000 par un artiste franco-suisse. Et on est certes sur du vitrail contemporain, mais avec un souci de répondre à l'objectif des vitraux qui était aussi...
une forme de catéchèse.
Tout à fait. Mmh. Et on a eu un travail partenarial en fait entre l'État, propriétaire de la cathédrale, et le diocèse pour réfléchir au sujet de ces vitraux qui interpellent beaucoup les visiteurs, qui interpellent aussi les paroissiens, il me semble, mais qui sont très très intéressants. Lorsqu'on les regarde, on voit qu'il y a vraiment de très belles choses à en comprendre.
Alors cette cathédrale, justement, Monseigneur Luc Meyer, vous allez en prendre possession, vous allez vous asseoir dans la cathèdre, ce siège réservé à l'évêque lors de votre prochaine ordination samedi 17 septembre. Que signifie pour vous devenir évêque de Rodez ?
Alors devenir évêque de Rodez, c'est devenir évêque de Rodez et Vabre.
Et Vabre, pardon, vous avez bien raison de le rappeler.
Et donc c'est devenir évêque pour l'ensemble du département, puisque ça coïncide avec le département de l'Aveyron. Bien sûr, il y a une cathédrale, et cette cathédrale, c'est l'église mère du diocèse. J'ai besoin de la découvrir, alors je serais heureux peut-être que Marion, un jour, me fasse une visite. J'en ai eu une première visite, et c'est vrai que j'ai découvert des choses magnifiques. Et j'ai vu aussi, durant l'heure et demie où j'y étais, beaucoup de gens passer. Et je me dis que c'est très beau que dans une ville comme la nôtre... Eh bien, quand on arrive de loin, la première chose qu'on voit, c'est cette immense cathédrale avec cette tour magnifique.
Parce qu'elle est en haut d'un promontoire, on la voit très bien.
Et donc, on la voit très, très bien. Et après, entrer dans la cathédrale, c'est d'une certaine façon entrer dans une forme d'initiation. Et pour entrer dans une initiation, il faut connaître le patrimoine, il faut connaître ce qui a porté ce patrimoine. Et puis avoir de l'estime et de l'admiration pour ce qui a été fait au fil des siècles. C'est un témoignage de foi dans l'histoire. Et la foi sans l'histoire, c'est pas possible. Et pour un chrétien, l'histoire sans la foi,
c'est pas possible non plus.
Donc on a vraiment besoin d'un dialogue de patrimoine, d'histoire, et puis de témoignage de foi. Vous parliez de catéchèse tout à l'heure. Eh bien, si on veut qu'une catéchèse aujourd'hui puisse avoir du sens, qu'un évêque dans sa cathédrale puisse dire quelque chose qui soit compris, il faut que ça s'inscrive dans une histoire. Donc moi, j'attends de découvrir l'histoire
et de rencontrer des personnes du diocèse de Rodez et Vabre. Attention, on n'oublie pas Vabre. Pendant le confinement, Rodez Agglomération a proposé des vidéos très vivantes pour faire découvrir ou redécouvrir à certains le patrimoine ruthénois. Je vous propose d'écouter un court extrait de l'une d'elles qui permettra aux auditeurs de Radio Présence de deviner où nous sommes ce matin. Écoutez.
Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode. Nous sommes avec... Marion Clochard, qui est animatrice du patrimoine à Rodez Agglomération.
Bonjour.
Merci d'être là. Je crois qu'on ne va pas partir d'ici.
Non, on est bien là.
Alors, où est-ce qu'on est ? J'entends les rumeurs de la ville, j'entends le brouhaha, mais je sens bien aussi que j'entends les oiseaux, les sols pleureurs, le vent léger, ça sent la pâquerette, les petites fleurs. Et on a le ciel. Et le ciel, c'est important ici, le ciel, non ? On le regarde, on l'a prié, on l'a vénéré.
Et puis, c'est un espace comme ça qui est propice à la méditation et effectivement, peut-être à la prière. On est à l'écart un petit peu du centre de Rodez. On a passé la rivière Auterne et nous sommes en fait dans ce qui était le petit séminaire Saint-Pierre et qui est aujourd'hui la maison Saint-Pierre.
Alors, Marion Clochard, cette maison Saint-Pierre, qui était donc un petit séminaire, en fait, il a vu le jour à peu près à quelle époque ?
Alors, on est au 19... Oups, là, vous me prenez...
Au 19e siècle, peut-être ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Beaucoup plus tôt.
Je m'excuse. je suis en train de... C'est sous l'épiscopat de Monseigneur Giraud. Et donc, ça va me revenir, je m'excuse.
Alors, en fait, pourquoi il a été conçu ? Parce qu'en fait, il y a eu un accroissement de la population à cette époque. Et donc, beaucoup de jeunes qui devaient être scolarisés.
Oui, alors, le principe du petit séminaire, en fait, c'est l'étape avant le séminaire. Donc, vraiment le lieu de formation des prêtres. Et c'est une école pour des jeunes qui ne vont pas forcément rentrer dans la prêtrise, qui n'iront pas forcément au séminaire, mais c'est l'étape préalable pour s'assurer d'avoir des jeunes qui connaissent bien leur base, si vous voulez. Mais c'est vrai que le petit séminaire, c'est aussi un lieu très important dans qui a permis en fait une ascension en fait pour certains jeunes qui étaient identifiés dans les paroisses et qui pouvaient sortir de leur campagne et accéder à un niveau d'études qui leur permettait ensuite de suivre des études supérieures.
Mmh. Et alors, ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est plus un séminaire. Il a quand même accueilli jusqu'à 250 jeunes. Alors évidemment, il est loin ce temps, hein, Monseigneur Meyer, où 250 jeunes se pressent aux portes du séminaire. Et vous avez été, vous, pendant 2 ans, responsable de la formation à l'accompagnement spirituel du diocèse de Laval. À votre avis, par quoi passe l'éveil à la vocation sacerdotale ?
Alors, cette formation à l'accompagnement spirituel, elle était destinée principalement à des personnes laïques, dont beaucoup étaient mariées, dont beaucoup étaient déjà
C'était
très engagées.
C'était trop tard,
engagées. Alors. Et donc, si vous voulez, je pense que la vocation et puis la découverte de la vie chrétienne et l'attachement à l'Église et la volonté de faire connaître Jésus-Christ, c'est propre à tous les chrétiens. Par contre, j'ai été supérieur d'un séminaire.
Tout à fait.
Alors, pas d'un petit, mais d'un grand séminaire, où il y avait des grands séminaristes. Alors, c'est vrai que, je pense que Marion l'a bien dit, ça correspond à une certaine époque, ces petits séminaires, et c'est vrai que pour un certain nombre de jeunes, ça a fait fonction d'ascenseur social. Ça existe encore aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais comme la société a changé, aujourd'hui, le ministère du prêtre n'est pas situé du tout de la même façon, tout comme l'instituteur, le pharmacien, l'enseignant, le secrétaire de mairie n'est pas reconnu de la même façon dans la commune où il exerce son activité. Alors aujourd'hui, comment éveiller, posez-vous la question, les âmes aux vocations ?
Oui.
Ben, je pense que le premier éveil aux vocations, c'est d'apprendre à vivre en communauté chrétienne et avoir la joie profonde d'être chrétien. C'est une expérience à vivre et c'est à partir de cette expérience-là qu'on peut accompagner des plus jeunes ou des moins jeunes pour que s'éveillent des vocations.
Voilà, nous allons rester sur ces mots de la joie du témoignage, la joie de croire. Merci à vous deux, Marion Clochard, animatrice pour Rodez Agglomération, chargée de l'architecture et du patrimoine, et vous, Monseigneur Luc Meyer, donc, qui allez être ordonné évêque du diocèse de Rodez et Vabre, samedi prochain 17 septembre, messe à 16h en direct à la cathédrale de Rodez.
Bienvenue à tous.
Merci à vous deux.